Bonjour à vous, mon nom est Corinne Touga, je suis votre animatrice dans le cadre de ce podcast qui est La vie maraîchère. C'est le balado du Jardin des Funambules. Notre mission, c'est de partager les dessous de la vie maraîchère pour participer au mieux-être fermier et faire connaître notre réalité un petit peu plus. Bienvenue à cet épisode. Bonjour à vous et bienvenue à cet épisode du mois d'octobre. Alors aujourd'hui, j'ai la chance de vous présenter une entrevue que j'ai faite avec Viviane Kaloxylos. Elle est fondatrice de Docteur et elle est notamment diplômée en environnement à McGill. Elle a été formée par Hélène Ingham. Puis elle a comme développé une expertise en fait en lien avec le compost et en lien avec la restauration des sols. Ce que j'ai pu aborder avec elle, c'est quoi les services écologiques desquels on peut s'attendre du sol réellement quand il est en santé. Bon, c'est quoi la différence réellement entre un extrait, un thé de compost, leur utilisation, les limites qu'il y a en lien avec l'utilisation de ces deux méthodes-là aussi, la façon dont on peut intégrer ça à la ferme. Sinon, eux, ils font des analyses des micro-organismes qui sont présents dans le sol. Fait que qu'est-ce que ça peut nous apporter? Quel genre de changement de méthode sur notre ferme ça peut nous amener à faire? Ça aussi, on a comme défriché un peu ce sujet-là. Puis, pour finaliser, pour boucler la boucle, on a parlé un petit peu de ce que c'est pour elle vraiment un sol vivant, de ce que ce n'est pas aussi, puis de ce que c'est réellement pour elle aussi des principes régénérateurs. Bref, on a fait un beau tour d'horizon de son expertise puis de ce que ça peut apporter sur nos fermes. Ça m'a, pour ma part, éveillé une nouvelle curiosité qui va peut-être se transformer un jour en action concrète dans nos itinéraires techniques, verra-t-on. Mais dans tous les cas, c'est sûr que ça m'a donné envie de me renseigner davantage sur le sujet. Donc, j'espère que ça va faire la même chose pour vous. Puis, en attendant de vous faire écouter l'entrevue dans quelques secondes, j'aimerais vraiment remercier les différents partenaires du balado. Donc, dans un premier temps, comme vous le savez, il y a Dubois Agri-Innovation qui est le principal partenaire du balado que je tiens vraiment à remercier et dont vous allez plus entendre parler en cœur d'épisode. Sinon, il y a aussi Climax Conseil qui nous suivent depuis le début de la ferme, qui nous supportent dans le cadre du balado qu'on aime, qui nous permettent d'avoir vraiment une belle production abondante à chaque année grâce à leur suivi rigoureux et régulier. Il y a aussi l'INAB, en fait, qui a été un passage décisif pour nous quatre, en fait pour nous cinq, parce qu'on est rendu cinq co-gestionnaires sur la ferme en passant. Donc, puis les cinq, on est passé à Victo, en fait. Donc, c'est vraiment un passage qui nous a permis d'acquérir des belles compétences de gestion. En plus, on s'est rencontrés là, fait que c'est certainement un lieu d'apprentissage de prédilection qui permet d'acquérir des compétences, mais d'acquérir aussi un réseau vraiment solide. Puis encore à ce jour, on en bénéficie. Puis pour terminer, finalement, il y a aussi les équipements de Vierge qui nous offrent des outils absolument solides qui nous permettent de sauver du temps et qui nous permettent également d'avoir un système agricole efficace et cohérent dans son ensemble. Donc, sans plus attendre, je vous laisse écouter l'entrevue. J'espère que ça va vous plaire. Puis c'est ça, bon automne. Le prochain épisode va être dans le mois de janvier. Fait qu'on se dit à dans 3 mois. Bonne écoute!
Salut!
Ça va bien?
Oui, ça va bien. Merci, toi?
Oui, moi aussi. Merci de m'accorder ton temps aujourd'hui. Je l'apprécie vraiment.
Merci de m'avoir.
Écoute, j'ai cru comprendre que la vocation de docteur, c'est d'accompagner, en fait, de soutenir les agriculteurs à rétablir le plein potentiel des services écologiques qui sont offerts par leur sol. Mais là, moi, ça m'a soulevé plein de questions, là. J'aimerais ça, en fait, savoir... Qu'est-ce que tu considères comme un service naturel de l'écologie des sols? Puis comment est-ce qu'on fait pour savoir si on en bénéficie déjà ou pas de ces services-là?
Il y a plusieurs fonctions et services écologiques qui sont livrés par les microbes dans le sol. Il y a la résistance à la sécheresse pour tes plantes, par exemple. C'est le rôle des fameux mycorhizes dans les sols d'aller loin durant les sécheresses, aller profond, aller creux pour aller chercher et livrer l'eau à vos plantes. La résistance aux maladies et aux infestations d'insectes, Ça, c'est une autre fonction microbienne. Les bactéries et les champignons, ça profite. C'est pas la même chose qu'les mycorhizes. Eux, ils construisent les structures du sol. Elles sont comme des barres d'armature qui créent les macro-agrégations dans le sol. Quand les prédateurs, eux, ils accumulent plein de... Les champignons puis les bactéries, ils accumulent plein de nutriments dans le sol que la plante ne peut pas aller chercher elle-même. Puis quand leur... Mais ils gardent ça pour eux. C'est pour ça qu'on a besoin d'un chêne trophique et les prédateurs, comme les bons nématodes, bactérivores, fongivores ou les amibes, qui vont manger les bactéries et les hyphes fongiques. Puis ils vont, eux, relâcher ces nutriments dans le sol. Fait que dépendamment de la présence de ta diversité de bactéries et vie fongique et l'équilibre entre ta vie fongique et bactérienne dans le sol, ça va changer le profil alimentaire qui est disponible à ta plante. Puis quand une plante est mal nourrie, ben elle est susceptible aux maladies, comme nous, c'est comme notre microbiote, plus susceptible aux maladies. Et en fait, elle digère moins bien les nutriments qui sont dans le sol, puis ça peut attirer des bébites. Fait que toutes ces fonctions-là, c'est des exemples de comment la vie microbienne des sols ont des impacts concrets sur la santé d'une plante. Dans un niveau écosystémique, ces champignons, ça profite, qui construit la structure dans le sol, bien, ça permet au sol à être plus imperméable pour éviter l'inondation ou comme trop d'eau dans un environnement, la stagnance. Mais il crée aussi des espèces de piscines et des tunnels dans le sol pour en garder l'eau aussi. Fait que si vous voyez un écosystème qui a soit pas assez d'eau ou trop d'eau, puis c'est tout le temps dans les extrêmes, bien, il y a quelque chose qui manque dans ce système-là qui inclut un manque de vie dans le sol. Mm-hmm. Un sol en santé va avoir ses différents acteurs dans le sol. Il aide dans une même manière comme la microbiote, une plante qui se nourrit bien avec tout ça, bien, elle va produire des différents types de métabolites secondaires, comme c'est comme des huiles essentielles de leur feuillage. Puis ça peut éloigner les insectes. Mais s'ils ne font pas ça, puis s'ils mangent pas adéquatement, bien, ça peut faire l'inverse, ça peut attirer les insectes. Fait que c'est des raisons super concrètes.
Si tu as une suite de problèmes en lien avec l'eau, en lien avec les insectes, avec les maladies, tu peux presque en déduire avoir, en fait, des problèmes de, disons, microbiote de ton sol. Mais si ça va relativement bien, puis c'est occasionnel, tu as quelques problèmes d'insectes, quelques problèmes par-ci par-là de maladies, tu sais, est-ce que c'est coupé au couteau? Est-ce que ton sol est soit en santé ou il est soit malade? Tu sais, je t'entendais en fait faire des entrevues comme en anglais, tu différenciais dirt and soil.
Ouais.
Comme en français, je ne saurais pas exactement comment le.
Oui, les gens disent traduire. Poussière puis sol, ouais, mais c'est ça, un sol peu ou poussière, bizarre, disons. Ouais.
Mais est-ce que c'est ça? Moi, j'étais comme, est-ce que c'est noir et blanc comme ça? Tu sais?
C'est une bonne question. Tu sais, il y a tellement... C'est pas juste les microbes qui déterminent toutes ces choses-là dans un écosystème. Tu sais, c'est le type de sol que tu as, c'est le type de végétation. Est-ce que tu compactes ton sol? Est-ce que tu brises ton sol? Il y a plein d'affaires. C'est complètement normal dans un écosystème en santé d'avoir des insectes nuisibles présents. C'est complètement normal. Ils ont une fonction dans la vie, sinon ils ne seront pas là. Ce qui n'est pas normal, c'est quand ces insectes-là sont capables de propager partout dans tes champs, sans limite, et qu'ils infectent partout, partout, partout. C'est ça qui n'est pas normal. C'est, mm-hmm. c'est pas un problème qu'ils sont là nécessairement. C'est quand... Si c'est facile pour eux de voyager puis infecter ou faire du dommage partout, c'est là où est-ce qu'il y a un équilibre, ouais, un déséquilibre.
Mais rendu là, c'est peut-être pas juste, mettons, une question d'écologie du sol, mais d'écologie tout court, en fait.
C'est écologie tout court. Puis c'est ça, l'écologie des sols, c'est juste une suite de l'écologie tout court. Mm-hmm. C'est que c'est dans nos cours d'écologie, moi, je suis allée à l'Université de McGill à l'École d'environnement, on apprend de tous les différents acteurs, les grands prédateurs, tu sais, les différents éléments dans un écosystème, mais on ne parle pas de la continuité dans la Terre. Fait que l'écologie des sols, un sol vivant n'est pas possible sans les principes agroécologiques non plus.
Mm-hmm.
Tu sais, c'est tout un système. C'est juste qu'on ne parlait pas de cet aspect-là souterrain qui a un impact sur ce qu'on voit, la chaîne écologique qu'on voit avec nos yeux. Puis vice-versa, la chaîne écologique qu'on voit avec nos yeux va avoir un impact sur la diversité puis l'équilibre dans les sols.
Mais il faut croire que les humains, on est très sensoriels, puis si on le voit pas, c'est comme si ça n'existait pas.
Oui, c'est ça.
En quelque sorte.
Oui, c'est ça.
Ça fait qu'on a une vision très limitée de l'écologie. Là.
Il y a un bon exemple sur un projet qu'on a travaillé. On vient de finir un projet de 3 ans sur un vieux base militaire en Ontario. Puis ça, c'était par erreur. Là,
okay.
Que tout ce champ-là, il y a comme 2 parties. Il y a comme un fossé qui divise les 2 parties du champ. Puis les gars qui travaillent là, bien, on a fait toutes les mêmes séries de végétation en rotation. Et il était supposé dépendre des extraits de compost partout. Sauf que au final, on a appris que ils ont seulement appliqué ça sur un parti du champ, le plus grand parti, puis ils n'ont rien mis d'extrait de compost sur l'autre partie, à l'autre bord du fossé, parce que je ne sais pas pourquoi. Mais les résultats sont assez impressionnants, parce que, et j'ai des photos de ça, c'est vraiment cool, qu'on voit la côté qui n'a pas eu l'extrait de compost, tu vois un gros épaisseur de matière organique qui a jamais décomposé, mais pas du tout. Et la vie microbienne dans le sol n'a pas tant bougé dans 3 ans. Mais l'autre côté, où est-ce qu'on a mis l'extrait de compost, c'était juste 2 fois par année, tu vois un épaisseur de humus de 1,5 cm qui est formé.
En 3 ans, c'est ça?
En 3 ans. Puis on commence à voir aussi dans l'horizon A, le sol, le topsoil, qui commençait à avoir plus de vie. Fait qu'on a fait la même chose les 2 côtés avec l'aspect agroécologique. La seule différence, c'est qu'on a ajouté cet aspect écologie sous le sol, puis ça a donné qu'on a créé un niveau de humus de 1,5 cm en 3 ans, tu sais. Fait que maintenant, ça, c'est en 2 ans, parce qu'on a pris les photos au début de cette saison ici. Fait qu'en 2 ans, on a fait ça. Fait que c'est pas un, c'est pas l'autre, c'est les deux, tu sais. C'est comme ce qu'on peut atteindre en 10 ans avec seulement l'agroécologie, bien, on peut atteindre dans 2 ans avec les sols, les principes écologie des sols, avec les principes agroécologiques. Mm-hmm.
C'est comme ça bouclait la boucle.
Ça boucle la boucle. Ça ne peut pas être un ni l'autre. Ça ne peut pas. Ça doit être les deux. En tout cas, c'était quand même intéressant.
C'est
comme
assez
concluant. Erreur.
Oui, c'est oui. Ça. C'était comme si vous aviez une parcelle test, dans le fond, puis une parcelle témoin. Oui,
mais c'était pas par exprès.
C'est ça, c'était pas par exprès.
Ouais. Tu sais, dans le fond, on a vu que ça a fait une énorme différence en termes de temps pour construire un sol, pour construire du sol. Et aussi, en attendant que ce système est construit à travers de l'agroécologie, que tous les éléments sont en place, ben c'est comme un bon pansement à utiliser les extraits compost, l'été compost, pour les problèmes de maladies, pour les problèmes d'insectes, pour des différents problèmes comme ça. Et en même temps, peu à peu, on ajoute un peu de vie dans le sol. C'est sûr que, dépendamment de ta situation, pas toute la vie va survivre. Tu sais, le pourcentage de vie qui survit à chaque fois, ça dépend. Mais les plantes vont se nourrir quand même de ces corps morts microbiennes. Et ceux qui réussissent à trouver un niche dans la terre qui existe déjà, bien, eux, ils vont survivre, puis eux, ils vont multiplier. Et dépendamment de la diversité de nourriture qu'ils ont à manger, les différentes racines, jus de plantes et tout ça, bien, c'est comme ça qu'on construit à fur et à mesure avec le temps.
Mm-hmm. Là, tu viens de faire référence à ces têtes de compost-là comme un pansement. Puis moi, j'ai vraiment accroché là-dessus parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose derrière ça. Est-ce que tu insinues, en quelque sorte, que le têtes de compost, c'est comme un ajout qui devrait, à un certain point, gagner en autonomie de façon à ce que tu n'aies plus besoin d'en pulvériser, tu sais?
C'est ça. Peut-être, ça dépend du contexte. Dans le contexte foliaire,
ouais.
C'est comme un pansement parce que le problème, c'est pas... ça commence dans le sol. Et oui, ça commence dans l'équilibre écologique dans le sol, ainsi que si tu mets aucune nourriture puis il n'y a aucune matière organique, ben il y aurait des problèmes. Parce que la qualité des exudats change avec le changement microbien dans le sol. Elle va produire ses propres métabolites secondaires qui agit comme des huiles essentielles, plus ou moins, qui vont repousser eux-mêmes les maladies, mm-hmm. eux-mêmes les insectes. Alors, c'est dans ce contexte-là, mm-hmm. Le thé compost foliaire, dans ce contexte-là, c'est un pansement jusqu'à temps que ta plante le fait...
Puisse le faire elle-même.
Elle-même, mais dans le sol, ce n'est pas un pansement, ça fait partie du problème fondamental qu'on va chercher directement, tu sais, avec l'application des liquides microbiennes. À long terme, pour vraiment construire un système où tout ça, ça multiplie puis ça vit toute seule, ben il faut intégrer des principes agroécologiques avec ces outils-là. Sinon, tu vas en épandre pour le reste de ta vie, là.
C'est ça, tu sais, j'ai quand même l'impression que pour changer son mode d'action sur la firme, ses itinéraires techniques pour en venir à être plus cohérent avec des, disons, des méthodes dites régénératives ou de sol mm-hmm. vivant, mm-hmm. tu sais, c'est tout un changement de paradigme, c'est à la limite, c'est quasiment un changement d'entreprise, là. Puis j'ai quand même l'impression que la pulvérisation du thé de compost, ça reste une méthode relativement simple et comme applicable pour la plupart des fermes qui s'y intéressent. C'est comme un bon premier pas, disons, pour augmenter la vie dans le sol.
Oui.
Mais comment le faire? Comment s'assurer, si on le fait nous-mêmes, d'avoir une bonne qualité? Est-ce que ça vient nécessairement avec un microscope pour que nous-mêmes, on puisse analyser? T'sais, jusqu'à où est-ce que ça va si on voulait mettre cette méthode-là en place sur la ferme?
Je pense que, tu sais, est-ce qu'on parle d'un contexte de petite ferme maraîchère?
Oui, on parle, oui.
Ouais. Fait que dans ce contexte de maraîchère, ça peut rester relativement simple. Les thés compost sont plus complexes et volatiles que juste un extrait de compost. Je vais expliquer la différence, là.
Mm-hmm.
Un extrait de compost, c'est tout simplement, on fait tomber les microbes dans l'eau en brassant des microbes.
Donc, on ne les fait pas
on les multiplie pas. C'est non, ça. C'est juste, tu fais tomber des microbes dans l'eau, tu cries ça dans le champ. Okay?
C'est ça.
Autour des racines de tes plantes, c'est idéal. Une place où est-ce qu'il y a...
Foliaire est sur le sol, donc.
Mais ça, extrait, c'est vraiment pour le sol.
Okay,
c'est vraiment pour le sol. Foliaire, c'est mieux de faire du thé compost. Et le thé compost, c'est tu fais un extrait, fait que tu fais tomber tes microbes dans l'eau.
Là, tu
et
les
là,
multiplies.
Ouais, tu vas ajouter les nourritures.
Puis là.
Puis tu les actives.
Ouais.
Fait que c'est pas juste la multiplication, c'est plutôt l'activation des microbes. Quand les microbes sont actifs, ils produisent des cols autour de leur corps. Puis ces cols-là, c'est nécessaire pour faire. Épandre ça foliaire parce qu'ils vont se coller. Ils vont rester collés sur les feuilles.
On peut pas mettre juste un petit peu de savon à vaisselle.
Ouais, tu pourrais, là. Tu peux
non,
faire
ça va
ce
tout,
que
ça
vous
va
voulez.
Tout bousiller.
Ouais, c'est ça.
Non, mais c'est juste que tu sais, c'est ça qu'on met. Mettons, dans le cas, je sais pas, certains épandages qu'on fait. Là,
ouais, mais ça, t'as pas besoin parce que les microbes le créent naturellement.
Oui,
tu
oui,
les nourris, il devient actif. Quand ils sont actifs, ils produisent des cols autour de leur corps. Et c'est pour ça qu'il faut faire un thé compost pour épandre foliaire.
Ouais.
Foliairement, je ne sais pas si ça se dit.
Mais on comprend très
on
bien.
On comprend. Okay. Oui, oui. parce qu'ils vont adhérer,
en fait.
Oui, ouais. Okay. Ouais, c'est ça.
Mais comment faire pour savoir si on réussit à avoir de la qualité? Oui, ouais, c'est ça.
Ouais. Mmh. Avec l'extrait, c'est assez facile. Je vais commencer avec l'extrait. Assure que tu as du bon compost pour ton inoculum.
Vivant, mais c'est ça, tu sais, la bon première question, vivant. C'est ça, comment faire même pour savoir si c'est un compost vivant?
Oui, c'est pour ça qu'on a récemment commencé à en produire, parce qu'on a réalisé qu'on enseignait des choses, mais là, les gens ne pouvaient pas trouver
la ressource.
Ouais. La ressource. Fait que la ressource de compost, si tu prends ton compost, puis tu le mets dans un pot maçon, puis tu mets juste un fond de compost, puis tu remplis le reste de l'eau, puis tu le brasses. Brasse-le très bien pendant une minute. Laisse-le là. Après 15 minutes, tu vas voir si la couleur de l'eau, si tout ce qui était brun après que tu as brassé a tombé vers le fond, parce que c'est juste des particules d'eau. De particules matière organique. Puis là, l'eau est très, très claire. Il n'y a pas de grand bon dans ce compost-là. Il n'y a pas de rien d'intéressant en termes de vie microbienne dans ce compost-là. Si l'eau, après que tu laisses...
Ouais. Elle peut juste se déposer. Toutes les agrégats sont rendus dans le fond. Il n'y a rien.
C'est ça. Okay. L'eau est claire. Il n'y a pas tant de choses intéressantes là-dedans.
Il n'y a pas de colle.
Il n'y a pas de colle, non. Puis il n'y a pas d'acide fulvique, il n'y a pas d'acide humique. Puis si tu vois, c'est un peu jaune, doré, ben il y a probablement une bonne source de bactéries et de prédateurs bactériennes. C'est la présence d'acide fulvique, ça, la couleur dorée. Puis ça prend les métabolismes de la voie bactérienne. Si tu vois une couleur de brun, de chocolat, de brun, ben ça indique la présence d'acide humique. Puis ça prend la voie métabolique de la vie fongique à se rendre. Puis pour que la vie fongique et la vie bactérienne lâchent les nutriments qui sont dans leur corps, ça prend leurs prédateurs. Fait que là, juste... Simplement, c'est très, très simple, à part de faire tester les composts en dessous d'un microscope. Tu peux faire, moi j'appelle ça le test d'acide humique. Puis tu brasses ça, tu laisses tous les sédiments tomber, puis c'est quoi la couleur de l'eau? Est-ce que c'est clair? Ça vaut pas ton argent. Est-ce que c'est jaune? OK, c'est bon pour tes crucifères, blablabla. Est-ce que c'est brun? Bien, ça vaut la peine d'essayer comme source de inoculum. Mm. C'est ça. Fait que ça, c'est très simple. Puis là, si tu veux vraiment vérifier après ça...
Ben, j'ai pas le choix de regarder au microscope.
Là, il faut que tu regardes
au microscope. Mais j'ai vu qu'il y avait une ferme qui le faisait. C'était quoi? C'est Jardin d'Ambroisie, je pense. Elle a un microscope.
Oui.
À la ferme, puis elle l'observe. Comme
oui, il y a plusieurs agriculteurs.
Je pense que c'est le Jardin des Pèlerins. Je suis pas sûre c'est lequel entre les deux. Mais j'ai vu que comme elle faisait son thé, après un extrait, elle allait regarder puis était comme OK, cool, il y a plein de monde là-dedans, parfait, on l'épand, tu sais, mais
oui,
c'est...
tu peux. Fait que nous, on a des agriculteurs que ils font leur extrait. Fait que l'extrait, si tu sais que le compost est bon puis il n'y a pas de chlore dans ton eau, tu peux pas le rater, là, tu sais. Un thé compost, c'est là où est-ce que tu as besoin de soit un microscope ou quelqu'un avec un microscope pour venir vous assister les premières fois pour que... avec comme l'odeur du thé compost, le type de mousse qui forme, il y a comme d'autres indicateurs qui peuvent te dire si c'est raté ou pas.
Oui, parce qu'il y a comme un processus qui peut faire en sorte que au cours de ce processus-là...
Tu peux le rater.
C'est ça. tu peux le rater. Dans le bon sens ou pas. Là.
Oui. Okay. Fait que si tu veux pas apprendre le microscope, ça serait juste d'être accompagné les premières fois par quelqu'un qui fait la microscopie. Mm-hmm. Pour te dire, puis là, il y a certaines odeurs, il y a certains trucs visuels qui peuvent vous aider à savoir si c'est bon ou pas. Ça peut devenir assez intuitif. Mais oui, il y a des agriculteurs qui vont asseoir et apprendre les ABC de microscopie pour checker ça eux-mêmes. C'est pas compliqué. Ça prend pas beaucoup de temps. Nous, on aide ceux qui veulent apprendre. On va les enseigner. Et il y en a d'autres que on les assiste avec les premiers coupes de batch. Puis là, ils commencent à avoir un genre de feeling pour ça, tu sais. Puis, certaines odeurs, si tu sens pas, tu sais, on fait ça, on essaie de rater une batch par exprès.
Pour voir
juste
quoi,
pour
l'apprentissage.
Ouais, c'est ça. Fait que ce n'est pas nécessaire d'avoir un microscope. C'est sûr, si tu fais des décomposts, d'avoir quelqu'un qui est là pour vous guider au début. Mais si c'est quelque chose qui vous intéresse, oui, ça se fait. Il y a des agriculteurs qui le font. C'est pas du rocket science. Mais c'est à vous à décider qu'est-ce que vous êtes à l'aise à faire. Ça peut être aussi simple que tu prends un vieux par de collant de femme, tu mets du compost dedans, t'as ton eau dans un chaudière qui a pas de chlore, tu brasses ça, puis tu crisses ça sur ta planche, puis tu sais que ça va... C'est peut-être pas... t'utilises pas peut-être tous les moyens que tu pourrais, mais tu fais quelque chose de bon. Puis c'est quand même une manière assez paresseuse de le faire sans se compliquer les choses. Puis ça se fait, là, tu sais. Puis comme je dis, l'été compost, c'est vraiment bon pour comme des problèmes immédiats d'insectes, de maladies, la prévention de ça. Mais si t'es pas là-dedans, puis tu veux juste améliorer la vitalité de tes terres, tu peux juste garder ça simple, faire un extrait de compost, puis t'as pas besoin de casser ta tête avec ça, là, t'sais, mm-hmm. Ça.
Moi, j'ai juste l'impression que, mettons, dans mon état d'esprit à moi, là, d'entrepreneur, j'aurais de la misère à mettre en place un système quelconque, même s'il est très, très simple, là, avec des bons nylons, si j'ai pas, à quelque part, quelque chose de tangible qui m'indique la qualité puis la vitalité de mon produit, tu sais. Mm-hmm. Fait que c'est pour ça qu'à quelque part, je sens que, personnellement, j'aurais besoin d'un accompagnement, au moins pour me prouver qu'il y a un effet. Ben, qu'il y a un effet. Pas nécessairement qu'il y a un effet, mais que, du moins, ça peut induire un effet vraiment bénéfique.
T'sais. Ben, tu sais, comme, on va pas tout rentrer là-dedans, là, dans cette discussion-là, mais c'est ça que j'ai trouvé le plus informé les gens sont dans ce sujet-là, le plus qu'ils vont faire un effort. Tu sais, il y a 30-40 ans, tous les bactéries, c'était mauvais. Puis c'est grâce aux compagnies des entreprises de yogourt que
c'est vrai que ça a changé.
On mange, c'est des bons bactéries, tu sais. Oui. Fait que là, on mange ça pour des bons bactéries.
Oui. Ça a changé notre conception, c'est fou, hein? C'est vrai.
La choucroute, le kombucha, le kéfir, et on est full dans le vivant, là, puis la relation entre le vivant et notre santé, tu sais, et notre capacité de... Tu sais, notre microbiote, on peut manger tous les beaux légumes puis les fruits au monde, mais si ton microbiote est scrap, ben tu vas pas assimiler ces nutriments-là. Là. Mm-hmm. Tu peux bomber tes terres avec plein de produits, plein de... Mais si le métabolisme de tes plantes, les microbiomes du sol, ne sont pas là ou sont endommagés, ben ça va pas... Tu gaspilles ton argent en mettant tous ces nutriments dans la terre, parce que ça va juste partir avec les pluies. Ça ne va pas nécessairement dire que ton plante s'en sert de tout ça. Ça prend son métabolisme, la microbiote.
La vue maraîchère est fière d'avoir comme partenaire principal Dubois Agri-Innovation. Découvrez leur sélection de couvertures flottantes et offrez à vos cultures une protection contre le froid et contre les insectes. Ces couvertures favorisent la croissance des plantes en augmentant la température et en maintenant un bon taux d'humidité. Commandez les vôtres chez Dubois avant la commande au fournisseur et vous pourrez même choisir la longueur que vous désirez. Vous trouverez également un grand choix de couvertures au www.duboisag.com, www.duboisag.com et profitez de la livraison gratuite sur vos commandes de 200$ ou plus en ligne. J'ai vu que vous offrez des analyses sur l'écologie du sol. Bon, ça me semble être, dans ce que je connais, comme une analyse des composantes du sol, mais c'est pour regarder ce qui est vivant dedans. Moi, j'aimerais ça savoir qu'est-ce qu'on veut puis qu'est-ce qu'on ne veut pas retrouver dans ces analyses-là dans un premier temps, puis c'est quoi les conclusions auxquelles ça peut nous permettre d'arriver comme ces données-là.
Mm-hmm. Faut savoir, pour faire ces analyses-là, faut prendre le sol qui est juste autour des racines, qui touche les racines des plantes qui t'intéressent. Puis ce qu'on va voir, c'est quels micro-organismes sont présents en ce moment autour de tes racines, dans la microbiote, en guillemets, de cette plante-là, autour des racines. Puis, ce qui est là, puis qui n'est pas là, puis en quelle quantité, le biomasse et la diversité. Donc, pour qui est là, en général, on ne veut pas voir, par exemple, les nématodes parasites. Mm-hmm. On ne veut pas voir les champignons qui causent des maladies. On ne veut pas voir plein de ciliés. Mais c'est sûr que si tu en trouves un peu de champignons qui causent des maladies, mais qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de bons champignons, ben écoute, c'est juste la diversité dans un écosystème, c'est correct, tu sais. Mm-hmm. Puis on ne veut pas voir des bactéries pathogéneuses et des choses comme ça, des E. coli, des choses qui sont vraiment pas beaux. Puis on ne veut pas juste voir des bactéries. Et c'est pour ça, tu sais, dans un autre podcast que j'ai fait en anglais, je ne sais pas lequel que tu as écouté, mais quand je parle de, en guillemets, poussière versus sol, c'est ça qui définit un genre de poussière pour moi, c'est quand je vois juste des bactéries. Puis c'est tout.
Ouais.
Fait que ça peut être correct si tu veux pousser des pissenlits, là. Puis si tu fais du vin pissenlit, puis c'est ça que tu veux, ben c'est parfait, là. Si tu produis du bardane, c'est parfait. Mais il n'y a pas assez de diversité. Puis tes plantes dans un potager ou dans une ferme maraîchée, eux, ils ont vraiment besoin des éléments nutritifs qui viennent des voies métaboliques des champignons aussi. Mm-hmm. Il y a des maladies qu'on ne veut pas voir, les micro-arthropodes, des micro-insectes qui causent des problèmes qu'on ne veut pas voir. Il y a l'aspect de équilibre. Donc, si vous êtes dans un verger, on veut voir vraiment plus de champignons que de bactéries. Si on est dans le potager, on veut voir comme un équilibre entre la vie champignon et la vie bactérienne. Ce que je vois normalement, c'est juste plein de bactéries.
Pourquoi? On a besoin des deux. À cause qu'il y a trop une grande perturbation du sol en général, fait que ça ne permet pas la stabilisation.
Oui, mais les sols que j'ai vus dans ce contexte-là, c'est des sols qui sont beaucoup travaillés. On ne parle pas de juste des coupes de centimètres, là, qui sont travaillés, qui ont eu beaucoup de produits azotés, ajoutés, de nitrates et des choses comme ça.
Ouais, ça favorise la vie bactérienne.
Ça favorise, oui, exactement. Et qu'ils n'ont pas de couvre-sol, ils n'ont pas de paillés, ils n'ont pas de rotation, d'engrais verts, c'est souvent des cas comme ça. Des sols.
Mais ce que tu viens de nommer, c'est des pratiques usuelles dans les potagers. Je connais pas vraiment d'autres pratiques que ça, dans le fond.
Ouais, puis j'ai pas toutes les réponses. Là,
Non, je comprends en fait, mais justement, on explore ensemble.
On explore, puis ça serait cool d'explorer en réalité, mais c'est ça, tu sais. Fait que pour les plantes potagers, on a besoin de voir aussi un peu de vie fongique. Et on voit dans des contextes que les sols sont très, très secs, ben les prédateurs qui vont manger des bactéries et les effets fongiques qui vont relâcher les nutriments aux plantes, ben il y en a souvent très peu où il y en a, j'ai vu des cas où il n'y en a pas, il n'y en a même pas des vers de terre. Là. Tu sais, comme les vers de terre, c'est une des prédateurs qu'on voit avec nos yeux, mais il y a aussi les nématodes bactérivores, fongivores, bénéfique, les amèbes. Hein. Oui, ça, ils sont bénéfiques et ils stimulent la croissance des organismes. C'est comme s'ils n'ont pas de prédateurs, ils chillent leur vie, là. Mais, tu sais, si tu veux stimuler la croissance fongique, ben amène un prédateur, ben ça prend un prédateur, mais aussi un prédateur pour le prédateur, parce que sinon, tu sais, c'est l'écologie, c'est toute la chaîne trophique. Fait que ce que moi, je regarde pour la présence bactérienne bénéfique, non bénéfique. Champignons bénéfiques, non bénéfiques. Et je parle pas des mycorhizes. Je parle des champignons saprophytes qui habitent dans le sol. Les mycorhizes, c'est une autre analyse. Je parle aussi, je regarde pour les amibes, les flagellés qui sont bons, les ciliés qui sont moins bons en grande quantité, et les types de nématodes, les bactérivores, les fongivores, les prédateurs, les omnivores, les parasites. Et quoi d'autre? Si je vois beaucoup d'algues, ça me dit quelque chose de l'infiltration d'un système. Si je vois beaucoup de sel, parce qu'on les voit, la salinité, on peut le voir. Fait que, qui est là, qui n'est pas là?
Et en quelle quantité?
Et en quelle quantité? En quel équilibre? Parce que tu peux avoir, ça prend un minimum nombre de bons champignons pour qu'ils rendent leur service à l'écosystème. Ça prend un minimum nombre d'amibes pour qu'ils rendent leur service à l'écosystème adéquatement, optimalement. Fait qu'en quel nombre? Qui là, qui n'est pas là, en quel nombre, donc biomasse, et l'équilibre entre la vie bactérienne et la vie fongique.
Mm-hmm. Mais à quelle conclusion ça peut nous amener? Ça, par exemple, là, je sais pas, tu décris un milieu dans lequel il y a plus de bactéries, puis j'ai comme l'impression que c'est chez nous. Là,
ouais.
Mais après ça, à quelle conclusion ça peut nous amener? Mettons, on t'envoie l'analyse, tu nous dis, ben oui, vraiment, c'est un milieu bactérien fortement, tu sais.
Ouais.
Comment on fait pour favoriser un milieu plus fongique, tu sais?
Ouais, ben c'est ça. En théorie, je vous dirais en théorie, parce que je suis pas une agronome, là, mais, tu sais, ça serait de favoriser des pratiques que de plus que possible vont couvrir le sol.
Mm-hmm.
Ça va automatiquement aider aux champignons à se régénérer.
Oui.
Ça serait de regarder les types d'intrants aussi, parce que s'il y a beaucoup de fermes que j'ai remarqué, c'est beaucoup de choses très azotées, puis c'est le nitrate.
Mm-hmm.
Ça va nourrir tes bactéries, ça va causer un gros boom de reproduction bactérienne.
Mm-hmm.
Et ça favorise pas ton environnement, ton niche fongique. Fait que au lieu de juste utiliser, mettons, du fumier de poule, ben considère aussi du liquide de poisson, des hydrolysates de poisson.
La farine de luzerne.
Farine, ouais, des choses comme ça qui vont nourrir plus ta vie fongique aussi, tu sais. Peut-être tu as de la bonne vie fongique, mais ton sol n'a pas assez de prédateurs. Fait que cette action de cyclage des nutriments, ben t'as juste besoin de booster ça. Fait que il y a la combinaison de mettre les microbes en liquide. Si ta vie fongique n'est pas là, tu peux créer des contextes écologiques à travers l'agroécologie pour créer des niches. Et tu peux sauter des années en inoculant la vie fongique que tu as besoin et la diversité à travers tes composts, des extraits composts, pour que ça prend moins de temps pour qu'ils se reprennent, pour qu'ils reprennent leur place dans l'écosystème. Si on voit plein de ciliés dans ton sol, ben on va dire que tu as un problème de trop d'eau dans ton sol, il va falloir travailler ton drainage parce que le type de habitat dans le milieu n'est pas propice pour ces bons microbes. Fait que si tu as un problème de drainage, puis ça ne draine pas, puis c'est trop mouillé, bien, tu peux mettre tout le thé compost que tu veux, tu peux mettre tout le paillé que tu veux, ça va pas changer le fait que t'as trop d'eau dans ton environnement, tu sais. Puis ça va favoriser certains microbes. Les moisisseurs, ils adorent ça, la manque de circulation d'air.
Mm-hmm.
Ils adorent ça, tu sais. Il y a plusieurs différents indicateurs qu'on peut prendre de ces analyses-là, qui est là, puis là, surtout quand on regarde qu'est-ce qui est fait, ou si on voit le milieu aussi, on peut vraiment trouver des petites choses à changer qui vont vraiment faire toutes les différences dans les résultats.
Oui, ce que je vois, c'est qu'il peut y avoir des répercussions assez concrètes à
assez
ce genre
concrètes.
D'analyse-là. Oui,
oui. Ouais.
OK.
Oui.
Hey, tu parlais comme des principes un peu régénérateurs qu'on peut décider de mettre en place sur notre ferme. Puis ça me brûle les lèvres de te demander si tu considères que le modèle, mettons, bio-intensif qui est comme vraiment connu, là, parce qu'il faut bien que je prenne un modèle, fait que je vais prendre celui-là, c'est qu'on applique à la ferme, là. Si tu considères que c'est du maraîchage ou de l'agriculture en sol vivant ou pas, tu sais.
C'est une bonne question, c'est difficile à répondre. Ces systèmes-là sont excellents pour la production, la production assez élevée de légumes dans un petit espace.
Mais ça, c'est positif, non? C'est le fait que ça soit sur ce petit espace, ça fait qu'il y a plus d'espace non touché.
Exactement. Oui, absolument. C'est comme s'il y a plusieurs questions dans ton question. Oui,
je sais. C'est extrêmement vaste comme question. Je suis consciente que tu ne peux pas nécessairement y répondre.
Parce que régénératrice, bien, premièrement, il n'y a pas un consensus sur c'est quoi la agriculture régénératrice.
Mais il y a l'air d'avoir des principes de base incontestables.
Oui. C'est... moi, je ne vais pas essayer de mettre une définition là-dessus, là. Mais pour les sols vivants, si tes terres sont renourries, si tu fais des actions pour redonner des éléments nutritifs à ton sol à chaque année et tu couvres ton sol, le sol, ça inclut la matière qui couvre le sol dans sa définition. C'est comme dire le corps humain inclut pas les cheveux ni le pot. Tu sais,
ouais.
Le sol, par définition, ça
inclut
doit
ce qu'il supporte, ouais.
Inclure cette matière qui est sur le topsoil.
Mm-hmm.
Ça, c'est la définition d'un sol. Fait que si on n'a pas ces éléments-là, ben c'est difficile de garder le sol. Les microbes, c'est comme ils ont chaud, ils ont froid, ils ont soif, parce qu'ils n'ont pas... C'est comme s'il n'y avait pas de toit sur nos maisons, là, tu sais. Fait que un sol vivant, c'est pas parce que nécessairement que tu utilises tes composts, que tu es en sol vivant. Est-ce que ton sol a de la vie ou pas? C'est pas parce que tu n'utilises pas ces choses-là, comme les liquides compost, que ton sol n'est pas vivant. C'est tout simplement, est-ce qu'il y a un écosystème en équilibre d'un micro-organisme dans tes terres, oui ou non? Est-ce que tes sols sont vivants? C'est tout simple.
Oui, OK. Puis, mais pour arriver à le savoir, on a besoin de gens comme toi. C'est ça l'affaire. On ne peut pas vraiment arriver à le savoir par nous-mêmes, dans le fond. Mais tout ce qui est perturbation...
Tu peux voir des indicateurs de comment tes terres réagissent dans les sécheresses, ou mm-hmm. avec des gros pluies ou aux maladies. Si tu as un insecte nuisible sur une de tes plantes, puis ça reste là, puis ça ne propage pas partout, tu sais, c'est des belles indicateurs, là. T'as pas nécessairement besoin d'un microscope pour ça, tu sais. Donc, est-ce que je considère ça régénératrice?
C'est trop... En fait, c'est du cas par cas, c'est ce que je comprends.
Je pense que c'est cas par cas, parce que tout le monde est différent. Si tu prends les fruits, les légumes, les plantes, ils stockent toutes sortes de nutriments dans ces légumes-là. Puis, il y a un avantage, nous, on peut les manger. Great! Mais ça, c'est tous les nutriments que la plante elle-même, elle avait besoin pour continuer sa vie et son lignage de vie pour l'année prochaine. Puis si on prend tout ça à chaque année, puis si on remet pas assez, bien, ton terre va tranquillement fournir de moins en moins, puis ce n'est pas régénératrice.
C'est pas la logique des cultures annuelles. J'ai comme l'impression que, mettons, une vision, disons, radicale des principes régénérateurs ou de sol vivant, c'est comme, c'est juste, ça a juste pas rapport avec la culture annuelle, que ça vient nécessairement avec des cultures vivaces. Fait que là, on parle vraiment de d'autres choses.
Oui, mais l'agroécologie, oui, mais c'est pour ça qu'il y en a des gens qui parlent de l'agroécologie puis des cultures vivaces, qu'il faut qu'on concentre vraiment de plus en plus là-dessus. Si à la fin de l'année, tu fais ta récolte, puis tu nettoies tes terres, puis c'est tout, je pense pas que c'est régénératrice. Je pense, pour que ça soit régénératrice, il faut que tu laisses plus que t'as pris. Tu sais, si on définit la régénération, ben l'agriculture régénératrice dans la manière que, tu sais, on récolte ce qu'on a à récolter et on affaiblit pas le terrain en même temps. Puis le terrain, non seulement est non affaibli, mais les systèmes sont capables de continuer à devenir plus en plus forts par année. Ça pourrait être une définition d'agriculture régénératrice, tu sais. Fait que le bio-intensif, je peux pas dire oui, c'est régénératrice. Non, ce n'est pas. Ouais. Parce qu'il y a tellement de fermes qui fonctionnent dans des manières différentes.
Mais il y a nécessairement du travail de sol. En tout cas, tu sais, c'est comme... J'essayais moi aussi. En fait, genre, j'observais notre ferme avec les nouvelles informations que j'ai sur les principes dits régénérateurs. Puis j'étais comme, OK, bien, essentiellement, on les travaille, nos sols. Tu sais, c'est comme... on les travaille pas profond, on les travaille sur 5 cm.
Oui.
Mais on les travaille quand même. Dans le fond, ça a un impact sur la vie fongique. Est-ce que... après ça, c'est juste que je peux pas m'imaginer. Ça fait pas partie des possibilités dans ma tête de ne pas travailler les sols. C'est ça l'affaire. C'est qu'on est... Genre, faut croire qu'on n'est pas encore rendu là parce que, mettons, ce paradigme-là, moi, je suis pas capable de le briser, là.
Non, puis écoute, c'est... en même temps, les fermes sont des entreprises. Puis s'il faut que tu travailles le sol les premiers 5 cm pour semer tes carottes, là, il faut que tu le fasses. Il n'y a pas... À moins qu'il y ait une autre technologie qui se fait développer, qu'on n'a plus besoin de faire ça, cool. Mais pour le moment, on n'a pas d'autre solution. Si tu travailles ton sol à 5 cm, puis tu sèmes, puis après semer ou après que les plantes ont levé, tu mets un paillet, tu mets un petit extrait de compost pour compenser. Ah, excuse-moi, mes amis, je vais vous donner des autres, d'autres amis, voilà. Honnêtement, si c'est fait comme ça, est-ce que c'est vraiment un problème? Moi, en théorie, je pense que non. Mais à voir. Tu sais, c'est tellement nouveau, tout ce domaine-là. Pis... Mm-hmm.
Mais tu sais, toi, t'es une des porte-paroles, disons, de ce mouvement-là. Ouais. Mais je vois à ta réponse que t'es pas puriste, disons. Là. T'as l'air d'avoir vraiment comme... de voir ces principes-là comme un large spectre. Puis que de plusieurs façons différentes, on peut faire partie de ce spectre-là, dans le fond. C'est comme une belle ouverture d'esprit, en tout cas.
Je pense qu'il faut qu'on reste objectif, là.
Ouais.
Tu sais, si on reste pogné dans nos dogmes, c'est pas bon pour personne. Puis dans la science, ça peut être dangereux, tu sais. Ça peut être dangereux de ne vouloir pas voir certaines données. Parce qu'il faut que tu sois, t'as raison, tu sais, ça, on peut pas faire ça. D'être puriste, je vois pas le but là-dedans.
Parce que c'est pas encourageant, en fait. C'est pas personne, encourageant. Ça polarise les gens, bon, c'est vraiment pas idéal.
Je sais, parce que j'ai vu dans plusieurs cas, dans plusieurs opportunités d'essais que les technologies de T-compost et extrait-compost, ça aide. C'est un morceau de ce casse-tête de régénération qu'il faut qu'on considère. Ce ne l'est pas le seul parce que c'est des systèmes qu'il faut qu'on construise. Puis dans des écosystèmes, il n'y a pas juste des microbes. Puis les microbes, ben eux, leur présence est déterminée aussi par les plantes, par les animaux, par la chaleur.
Par le milieu, c'est ça.
Ouais. Par le milieu. Fait qu'il faut qu'on regarde ça à tous les différents pièces d'un auto pour faire rouler la patente. T'sais? Puis les microbes, de ce que je comprends à date, c'est comme de mettre de l'essence dans ton auto pour que tu peux l'utiliser, pour que ça roule, tu sais. Fait que, mais l'essence toute seule, ça fait que ça... On va pas A à Z juste avec ton essence. Ça prend tout le véhicule avec son moteur et son... Tu sais, toute la patente, la personne qui le conduit avec l'essence, tu sais, c'est... Ça fait partie d'un tout, mais c'est quelque chose que, justement, parce qu'on ne le voit pas, on ne le considérait pas. Et là, on le sait que c'est là. On ne peut plus l'ignorer. Ça fait partie de cette solution-là.
Mais c'est sûr que plus qu'on a de gens qui le vulgarisent comme toi,
ouais,
qui en parlent ouvertement, qui font de ça comme une mission de vie, je veux dire, moins qu'on va être capable de l'ignorer, puis plus ça va devenir important pour nous, même si avec nos sens, comme en tant qu'humain, on n'est pas capable de le capter vite comme ça, à part quand il y a des problèmes.
Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, la Terre, on habite sur la planète Terre. Puis ça m'étonne qu'on ne comprend pas c'est quoi la Terre.
On est tellement déconnectés. Tu sais,
on est très déconnectés. Quand je rencontre des vieux agriculteurs, là, qui, tu sais, j'en ai rencontré un à un marché cette semaine. Tu sais, lui, son père était un agriculteur, son grand-père maraîcher en plus. Puis lui, ça fait 40 ans qu'il fait ça. Puis il n'y a jamais eu de problème qu'on voit, qu'on entend de manque de production, de maladies, de ci, de ça. Mais la cœur de sa ferme, c'est son tas de compost. T'sais, c'est des vieux connaissances, là. C'est lui qui parle de son compost, nanana. Puis c'est quelque chose qui vraiment est un bel outil pour aider nos terres à se régénérer année par année. Et pour moi, ça devrait devenir un élément clé.
Central.
Dans le cœur d'une ferme, c'est les sols. Et pour les sols, ça prend un bon compost. Ainsi que plein d'autres éléments. Mais c'est difficile d'intégrer. Et je comprends le défi de les concepts agroécologiques dans une bioproduction. Comme
mais c'est ça.
C'est difficile, c'est pas évident. Ouais. Mais le but, ce n'est pas d'être parfait.
C'est juste de cheminer dans le
c'est sens. De faire ce qu'on peut.
Oui.
Pour le mieux. Puis, il ne faut pas être trop dur, strict sur nous-mêmes non plus. Là. On ne parle pas de perfection. Ce n'est pas que tu ne vas pas avoir aucun insecte nuisible. C'est que ta ferme va être résiliente contre cet insecte nuisible qui est là, mais qui ne se propage pas partout. On cherche la force, on cherche la résilience, notre habilité d'absorber une choc. C'est ça qu'on a besoin. Et un terre en santé, c'est ça que ça donne. Fait que, tu sais, non, je suis pas dogmatique dans le sens que non, touche pas ton sol, gratte pas ton sol, tu sais, écoute, c'est des entreprises, à la fin de journée, il faut faire ça. Puis, je pense que oui, si on investigue ça, il y a peut-être des manières de rattraper de ces actions-là. Mais juste en général, ce que je bougerai jamais, oui, je reste... pur là-dessus, c'est que on habite sur la planète Terre, on a maltraité notre Terre parce qu'on a mal compris la Terre. La Terre est une entité vivante avec une conscience. Puis c'est ça qu'on détruit quand on travaille trop nos terres, quand on met des fongicides, quand on a des monocultures, il n'y a pas de question. Il n'y a pas de question. Puis si on veut être capable d'adapter à un climat qui change, ça va prendre plus de résilience, puis cette résilience-là est dans nos sols.
Bon.
On est passé loin de maraîchage, mais... Non, mais c'est parfait. Mais...
On va se quitter là-dessus. En fait, j'ai trouvé ça vraiment stimulant. Ce que ça m'a permis, notre entrevue, c'est de m'extirper l'espace d'un moment parce que au day-to-day, à tous les jours, tu sais, quotidiennement, ma vie puis la vie de mes associés, c'est une vie d'entrepreneur, justement. C'est une vie d'affaires, tu sais.
Ouais.
On a une business.
Yep. Pis
Mais je trouve ça tellement enrichissant de prendre le temps de regarder ce qu'on fait d'une autre vision, d'une vision beaucoup plus globale, puis de se re-questionner là-dessus de temps en temps, là. L'hiver, hein?
Non, l'hiver, pas là, là!
Non, mais je trouvais que...
Ouais,
j'ai vraiment apprécié. J'ai eu l'impression comme d'avoir une petite immersion culturelle à même la vision que j'ai de notre propre ferme, en fait, d'avoir un autre point de vue sur ce qu'on fait. Mm-hmm. Puis je pense que je vais continuer mes recherches là-dessus pour regarder comme de quelle façon on peut améliorer nos pratiques. T'sais, pas juste comme statuer sur c'est ça nos pratiques puis c'est tout, mais regarder justement, pousser peut-être les analyses, regarder des subtilités qu'on peut changer. Oui, vraiment.
Oui, puis ça a pas besoin d'être... On cherche pas la perfection. Humblement, une étape à la fois, on voit qu'est-ce qu'on peut contribuer, puis c'est tout. Parce que, ouais.
Mais tu as dit que l'agriculteur que tu as rencontré, le cœur de sa ferme, c'était son tas de compost. Oui. Puis tu vois, c'est comme... Tu dis ça, puis ça m'a vraiment marqué parce que je me sens vraiment loin de ça.
Ouais.
Mais je trouve que c'est vraiment beau ce que tu viens de dire, tu sais, comme... Merde! En tout cas, j'ai l'air d'avoir une grande réalisation, mais je me sens loin de ça en tant qu'entrepreneur, en tant que genre femme d'affaires. T'sais, j'ai l'impression d'être comme des fois plus une entrepreneur que une amoureuse de mon compost, mais vraiment, tu sais.
Ouais.
Fait que c'était enrichissant, en fait, ça, que tu partages ça.
Ouais. Puis si on rentrait dans les ce qu'on économise et les sous et les cents...
Ça peut être un autre élément de motivation.
Ouais, absolument.
Cool. Merci, Viviane.
Hey, merci beaucoup.
C'était vraiment cool.
Ouais, vraiment.